Daniel Marie Sainte, bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler aujourd'hui de la formation professionnelle. Je rappelle que ICI Martinique a pris l'habitude de vous rencontrer régulièrement sur un certain nombre de dossiers pour porter ce que j'appelle des compléments d'information. Parce que c'est vrai que il se passe beaucoup de choses à la Martinique. On entend beaucoup de choses, mais il me semble qu'on ne peut pas tout expliqué en 1 minute 30, et vous voyez que cet après-midi, pour préparer cette émission, le temps que nous avons pris pour pouvoir parler de la formation professionnelle. Merci de nous recevoir à votre bureau.
Ben, c'est à moi de vous remercier, puisque ce faisant, vous faites presque une mission de service public, pour vous donner l'occasion d'expliquer ce que nous faisons avec l'argent du public. Puisque nous avons choisi de m'interroger sur la formation professionnelle, ce que je dois dire d'emblée, c'est que de par la loi, les différentes lois de décentralisation qui se sont faites par vagues en 1983, ensuite en 2004, maintenant en 2014, nous sommes déjà à la décentralisation acte 4 et la totalité de la formation professionnelle tout au long de la vie, de toutes les personnes qui ont déjà quitté l'école, qui ont fini donc leur formation initiale, la totalité de ceux qui ont à se former sont actuellement relèvent du domaine de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, ce qui concerne la Martinique. À ceci près que ceux qui sont actifs, soit actifs salariés ou les chefs d'entreprise, ils ont leur propre dispositif pour financer leur formation continue. Ce sont des organismes paritaires agréés pour les salariés, ce qu'on appelle les OPCA, ou bien les fonds d'assurance formation pour ceux qui concernent les professions libérales ou les chefs d'entreprise. Mais en dehors de cela, que le public, qu'il soit les publics en situation d'illettrisme, qu'il soit les publics en situation de handicap, qu'il soit des personnes sous main de justice, comme on dit maintenant, ou bien qu'ils soient simplement des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, ou bien pour les jeunes, des demandeurs d'emploi qui sont inscrits dans les missions locales, la CTM a le devoir de leur proposer des formations gratuites. Alors, pour ce faire, chaque année, nous mettons sur pied des programmes de formation collective, soit pour les jeunes, soit pour les adultes. Ces formations sont réalisées par deux types d'institutions. Soit des institutions qui sont liées, intimement liées à la CTM. Ce sont des instituts, alors nous en avons deux. C'est l'Institut Martiniquais de Formation Professionnelle pour Adultes, l'IMFPA, ou bien l'IMS, l'Institut Martiniquais du Sport, qui fait des formations sur la base de contrats de service public que nous passons avec eux. Soit ce sont des institutions un peu parapubliques, comme l'IFMES, l'Institut pour la formation des métiers sanitaires et sociaux, ou bien avec l'IFSI, l'Institut de formation aux infirmiers, qui est géré par le CHUM, le centre universitaire, hospitalier universitaire de la Ménard, les écoles de sages-femmes, l'école de kiné, etc. Là, nous faisons des convention avec eux. Mais en dehors de cela, avec les autres centres de formation, nous procédons par appel d'offres pour faire les programmes, donc pour les jeunes que pour les adultes. Et puis à côté de cela, il y a des personnes, des chômeurs, des demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas ce qu'ils souhaitent pour la formation dans ces différents organismes. Mais nous avons offert la possibilité de bénéficier de ce que nous appelons les AIF, les aides.
Oui, nous y reviendrons tout à l'heure.
Voilà. Oui.
Alors, Daniel Marie Sainte, la question, si vous voulez, autour de la formation, on va essayer d'expliquer le contexte, mais il me semble qu'il faut aussi, avant, essayer de comprendre l'enjeu. Alors, tout le monde sait qu'il faut se former, mais est-ce que c'est un élément que vous faites parce que ça correspond exactement à ce qu'il faut dans une vie normale, ou est-ce que c'est un élément stratégique de votre politique à vous, majorité de la CTM?
D'abord, parce que nous sommes dans un système, regardez de quoi nous sommes compétents. En quoi nous sommes compétents? C'est défini par les lois de décentralisation, c'est défini par la loi qui a créé la CTM. Bon, nous partons d'une situation qui est qu'il y a beaucoup de chômeurs dans notre pays. Évidemment, le rêve d'un chômeur, de tous les chômeurs, c'est de trouver un travail pour qu'ils puissent gagner leur vie à la sueur de leur front, comme on disait à l'époque. Donc, il y a la politique de l'emploi. La politique de l'emploi n'a pas été transférée à la CTM, c'est l'État qui organise les règles, les dispositifs pour inciter ou aider les entreprises à trouver du travail ou pour contraindre les chômeurs à ne pas rester là assis, mais à chercher du travail. Donc, l'indemnisation des chômeurs, tout ça, ça relève de l'État. Donc, c'est pas nous. Néanmoins, nous faisons des incursions dans le domaine de l'État de manière tout à fait volontariste. Nous mettons en place des primes ou des incitatives pour inciter les chefs d'entreprise à recruter, soit des jeunes, soit des jeunes cadres, etc. Mais nous voyons, dans nos relations avec Pôle emploi, Pôle emploi est chargé de faire les enquêtes pour les besoins de main-d'œuvre, ce qu'on appelle les enquêtes BMO. Également, il recense les chômeurs et sort des statistiques par catégorie. On voit que d'un côté, il y a des offres d'emploi non satisfaites et il y a des demandeurs d'emploi. Parfois, il n'y a pas correspondance dans les prérequis pour occuper un emploi. Même parfois, beaucoup de chômeurs ne l'ont pas. En même temps, nous avons observé que plus les chômeurs sont qualifiés, moins ils restent chômeurs longtemps. C'est-à-dire le retour à l'emploi se fait plus rapidement pour quelqu'un qui a une qualification, qui a un vrai métier en main. Donc, augmenter la qualification de quelqu'un, sa professionnalisation, c'est augmenter ses chances. Soit qu'il retourne dans un travail, soit qu'il trouve un travail s'il est primo-demandeur d'emploi, ou soit même qu'il prenne confiance en lui-même et il crée son propre emploi parce qu'il a un savoir-faire. On peut le donner par la formation, le complément pour qu'il apprenne à devenir gestionnaire. Donc, nous sommes arrivés à la conclusion que si nous voulons aider véritablement le Martiniquais chômeur, il faut l'aider par la formation à se former, à devenir compétent, avoir une qualification. Donc, c'est pour cela que nous nous efforçons de mettre en place ce programme de formation dont j'ai parlé.
D'accord. Alors, Daniel Maricien, vous savez aussi que les entreprises, je le répète assez souvent, les entreprises ne sont pas faites pour employer des gens. Elles sont faites pour créer de la valeur pour leurs actionnaires principalement et les partager accessoirement ou régulièrement avec ceux qui permettent à l'outil de production de fonctionner. Mais ça veut dire qu'une entreprise, elle n'embauche pas pour embaucher. Elle embauche parce qu'elle a besoin de personnel, parce qu'il lui faut des personnes qualifiées pour faire certaines tâches. Alors, quelle est votre vision aujourd'hui par rapport à l'économie telle que nous l'avons? Quelle est votre vision du besoin de l'économie en matière d'emploi?
Bien. Alors, deux choses. Pour faire répondre un petit peu à votre réflexion, celui qui choisit de créer son entreprise, c'est qu'il a fait une étude de marché et il a vu qu'il y a un marché potentiel, il y a un besoin. Il y a une demande. Soit il choisit d'être producteur, il y a une demande à satisfaire. Soit il y a des services à rendre parce qu'il voit que il y a donc des services à la personne ou des services aux entreprises. C'est un nombre de choses à faire. Pour le faire, il voit que malgré sa compétence, il n'arrive pas à le faire tout seul, il a besoin de collaborateurs. Donc, pour satisfaire donc, le besoin du marché, il aura besoin de collaborateurs compétents. Donc, il faut d'abord, donc, par des enquêtes qui sont faites, nous faisons avec des bureaux de consultants, pour essayer de déterminer les besoins de l'économie.
D'accord. Et votre vision aujourd'hui sur l'économie martiniquaise, les besoins sont où?
Bien. Alors, vous savez que sous la mandature précédente, et j'avais largement contribué, une série d'études prospectives ont été faites. Nous avons toutes par branche professionnelle, et nous avons vu qu'il y avait des besoins. Alors, il y a des besoins dans les services. Vous savez qu'il y a un axe important pour nous. Nous avons la chance d'être une île placée sous les tropiques, qui est attractif de par sa nature, de par son histoire, de par son climat, pour des personnes qui habitent dans des pays froids et qui, donc, quand vient le froid chez eux, c'est ce qu'on appelle la saison touristique, mais ils viennent dans des endroits où ils sont bien accueillis, des endroits où il y a des structures pour les accueillir, où il y a des gens pour les accueillir. Donc, c'est pour cela que nous faisons des efforts, pour que tous les métiers liés à l'accueil des étrangers, donc des visiteurs, pour les inciter à nous apporter des devises, donc, et leur rendre tous les services qu'ils souhaitent. Mais dans tous ces métiers-là, ça fait partie de point important de notre programme.
D'accord. Donc, accueil, tourisme, animation,
restauration, etc. D'ailleurs, c'est pourquoi que nous avons contribué à créer le lycée, un lycée pour la formation initiale qui se trouve à Bellefontaine.
D'accord. Alors, première chose, le tourisme. Bien. Ensuite,
deuxièmement, il faut moderniser et diversifier notre agriculture. Alors, à la fois, il faut rendre plus performant l'agriculture qui se fait déjà, bon, celles qui sont traditionnelles, hein, la canne et la banane, mais également, il y a un créneau porteur. La transformation de la canne en rhum et surtout en rhum AOC, il y a un marché mondial. Et les professionnels ont besoin de personnel très compétent dans ce domaine-là. Deuxièmement, toujours l'agriculture, nous voyons que la chance, il faut aller dans la diversification. Donc, comme n'ont pas beaucoup de terres, il faut choisir des spéculations à haute valeur ajoutée. Donc, il faut donc des travailleurs agricoles de haute technicité. Donc, nous avons un volet de formation agricole que nous faisons avec les CFPPA, les centres de formation professionnelle en agriculture. Il y en a actuellement 4 sur le territoire. Donc, ils nous aident à réaliser ces objectifs-là. Et puis, nous avons des technologies nouvelles. Je ne sais pas si nouveau que ça toujours, mais en tout cas, j'ai eu l'occasion dans ma première interview de parler de tout ce que nous faisions sur le numérique. Et nous avons dénombré que pour le déploiement de la fibre, c'est au moins 180 emplois qui vont être créés là, dans les 33 mois qui viennent, 36 mois, disons, qui viennent. Donc il fallait parallèlement permettre aux entreprises à qui nous avons confié ces marchés de pouvoir trouver sur place du personnel formé. Donc nous avons un volet de formation numérique, formation à la fibre optique et au très haut débit. Voilà donc des secteurs qui sont porteurs et sur lesquels nous faisons de gros efforts. Et puis, il y a tous les services à la personne. Vous savez que notre population vieillit et les personnes en perte d'autonomie ont besoin d'une assistance. Donc nous avons des personnes, l'assistance à la vie sociale.
Ça rentre dans quel contexte? Le social? Les formations sociales?
Oui, c'est les formations sociales, les services à la personne. Et vous savez que la CTM a une compétence dans ce domaine. Mon collègue Francis Carole est en train de piloter l'élaboration des schémas pour l'autonomie, les schémas pour l'assistance des personnes âgées. Et toutes ces études permettent de dégager des besoins, des services à rendre aux personnes. Bon, il faut construire des EHPAD, mais il faut également qu'il y ait du personnel qui va s'occuper de toutes de ces personnes. Malheureusement, pour notre pays, il faut des CAP petite enfance, mais c'est pas, à mon avis, il faut pas les former massivement parce que la garde des enfants, dans un pays où le taux de natalité est en train de régresser, nous continuons à en faire, mais également, nous sommes obligés de faire beaucoup d'aides-soignantes, des infirmières, des personnes, des auxiliaires de vie, etc. Donc là aussi, ce sont malheureusement des métiers porteurs.
Et puis. Santé sociale.
Oui, santé sociale. Et puis, le problème que j'ai découvert, il y a une insécurité qui se développe dans le pays. Ce qui fait que beaucoup d'établissements, y compris la CTM, mais beaucoup d'établissements publics, mais établissements privés, commerciaux, etc., font appel à des gardiennages privés. Donc les sociétés de gardiennage se développent, et c'est un métier dans lequel il faut avoir des agréments délivrés par un service de l'État. Donc il faut que du personnel formé. Donc c'est pourquoi nous finançons également la formation dans ces métiers-là.
Sans compter que, par exemple, pour ouvrir un établissement comme le vôtre, il faut des gens agréés pour pouvoir l'ouvrir.
Absolument. Il faut donc que les personnes soient formées pour l'établissement recevant le public. Alors vous savez, il y a des diplômes, on l'appelle SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3, etc., même maître chien. Bon, tous ces métiers actuellement, les forment sur notre territoire.
On ne retrouve plus de major, hein, qu'on se mette bien d'accord.
Plus que ces personnes doivent avoir un casier judiciaire vierge. Le chef d'entreprise lui-même aussi doit être agréé. Donc c'est devenu très, très réglementé parce qu'il faut qu'on fasse attention. Parce que c'est de la police privée. Il y a donc en France un organisme qui est un conseil, je crois, national qui donne les autorisations pour la police privée. Les services de police privée, les services de surveillance privée, pas la police, mais les services privés, c'est très réglementé, donc il faut des personnes bien formées.
Alors, je suis étonné que vous ne m'ayez pas parlé du tout du BTP.
Mais je vais y arriver.
Bon, d'accord.
Je vais y arriver, comme c'est mon secteur, je le réservais pour la fin. Nous avons actuellement un gros problème, c'est que pour intervenir sur des bâtis existants, et ils sont nombreux, tous ceux qui étaient construits avant 1995 sont susceptibles potentiellement de contenir de l'amiante. Et pour travailler en présence d'amiante, pour désamianter, on a besoin du personnel spécialisé. Donc nous avons dû lancer l'appel aux entreprises pour qu'elles forment leur personnel, mais également dans notre programme de formation, nous avons mis des dispositifs pour aider les ouvriers du BTP, quelle que soit leur spécialité, à se qualifier pour travailler en présence d'amiante ou bien pour enlever de l'amiante, désamianté. Bon, mais également, il y a certaines spécialités du BTP. Bon, j'ai parlé du haut débit, c'est quand même des travaux publics, où il faut savoir construire parasismique, il faut savoir travailler avec dans le développement durable dans le bâtiment, et donc il y a toute la démarche de développement durable dans le bâtiment qui sont des nécessités pour les entreprises, parce que vous savez que je suis en même temps président de la commission d'appel d'offres, donc j'ai à approuver les règlements de consultation, les cahiers des clauses techniques particulières, et ensuite attribuer des marchés. Eh bien, au sein de la commission d'appel d'offres, nous avons mis des critères pour le choix des entreprises qui sont des critères techniques, le mémoire technique qui nous permet de voir la valeur technique des propositions à côté du prix. Donc il faut qu'au sein des entreprises, il y ait des personnes, des collaborateurs qui savent rédiger des mémoires techniques, donc qui ont appris à faire le développement durable dans le bâtiment, et construire un développement durable en sauvegardant l'environnement, hein, savoir faire des schémas organisationnels de protection de l'environnement, les sopraillés comme on dit, eh bien tout ça, ce sont des nouveaux métiers dans le bâtiment qui sont très utiles. Et puis nous avons un secteur porteur, qui est le développement des énergies renouvelables. Le solaire, l'éolien, le photovoltaïque, donc le solaire. Et là aussi, des formations à mettre en place, à financer, pour que nous soyons prêts à participer à la mutation énergétique. On va passer par la période de mix énergétique. Il y a donc actuellement des projets liés à l'éolien, liés au photovoltaïque. Eh bien, il faut que nous ayons de la main-d'œuvre qui sache intervenir dans ces domaines. Donc, tout ça fait partie de notre programme de formation.
Sans oublier également un secteur sur lequel vous parlez assez souvent de ça, qui sont les métiers de la mer.
Oui. Alors, les métiers de la mer. Alors, nous avons la chance d'avoir sur notre territoire une école de formation maritime. On l'appelle rapidement, mais trop rapidement, une école de pêche. Ce n'est pas une école de pêche, c'est une école de formation maritime et aquacole qui est actuellement gérée par une association. Nous, d'ailleurs, avec cette association, nous sommes en pourparlers pour transformer cette école en vrai lycée de la mer. J'ai entendu que le préfet reprend cela. Le seul problème que je dis, c'est que mon collègue Bolinois, qui était avant président de la commission de pêche, était déjà porteur du projet de création de lycée de la mer. Mais dès qu'on utilise le concept lycée, ça devient un lycée comme tous les autres lycées. Et les formateurs doivent être pris en charge par l'État, comme ils prennent en charge les professeurs dans tous les lycées. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça n'avait pas abouti. Mais c'est toujours nécessaire, pouvoir former depuis le plus jeune âge, donc depuis la troisième, des jeunes Martiniquais au métier de la mer. La pêche, évidemment, l'aquaculture, mais également tout le loisir nautique.
La plongée sous-marine.
La plongée sous-marine, ben, les
roturiers.
Les bateaux de haute mer, pour qu'on nous ait tous ces métiers liés à ces sports nautiques ou le loisir nautique ou le loisir touristique, eh bien, à savoir faire également l'entretien de tout ce matériel de navigation. Déjà, dans certains lycées, il y a des sections qui ont été créées. Notre école de formation maritime et aquacole aussi s'y intéresse, puisque nous l'avons pourvu de centres de simulation pour les navigations, et on peut, en Martinique, se former à piloter des gros pétroliers en restant en Martinique, à partir d'un simulateur. C'est un simulateur qui apprend aux pilotes à accoster dans n'importe quel grand port du monde. Puisque nous avons des simulations là-dessus. Mais évidemment, cette association manque un peu de moyens. C'est pourquoi nous sommes partisans de changer son statut. Mais on va le faire en concertation avec ceux qui gèrent actuellement cette institution. Donc, les métiers de la mer, les métiers de l'aquaculture, c'est une perspective que nous avons prise en compte.
Donc, vous nous dites en fait que tous les secteurs sont concernés. En réalité, l'industrie, l'agriculture, les services, le commerce, bien entendu,
l'hôtellerie et
le tourisme. Alors, la question pour nous, oui, Daniel Marcel.
Je dois ajouter que nous utilisons deux modes de formation. Deux modes. Il y en a un qui n'est pas suffisamment mis en valeur. C'est le mode de formation par l'apprentissage. C'est très important, puisque nous finançons le fonctionnement de 4 CFA. C'est la CTM qui finance. Nous avons passé des partenariats avec des gestionnaires. Je vais citer la Chambre des métiers qui gère le CFA des métiers qui est à Rivière-Salée. C'est le premier qui a été créé. 1975, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, un CFA agricole qui est géré actuellement par le LECTA de Croix-Rivaille, mais qui se trouve au quartier Chaupont-en-François. Il n'y a pas suffisamment d'apprentis qui y vont parce qu'il n'y a pas suffisamment d'employeurs, d'exploitants agricoles qui recrutent les jeunes apprentis. Il y a le CFA du BTP qui actuellement est géré par la MEP et qui se trouve au quartier Vaudrancourt à Ducos. Et puis le dernier qui est arrivé, c'est celui du CFA tertiaire géré par la Chambre de commerce. Et la Chambre de commerce vient de créer des locaux, son centre, son pôle formation, d'ailleurs avec le soutien de la CTM, hein, de la région d'abord, la CTM maintenant, et qui gère un CFA pour notre compte. Et nous trouvons qu'il n'y a pas, les entreprises n'ouvrent pas assez leurs portes aux jeunes. Alors c'est vrai qu'il faut qu'il y ait le besoin. C'est pour cela que nous avons un dispositif d'incitation à l'apprentissage, à l'effort d'apprentissage, dans une prime que nous versons aux entreprises. Par le passé, les entreprises disaient que cette prime était versée irrégulièrement, c'était pas assez régulier. Bien, nous venons de nous doter d'un logiciel. La CTM a fait l'acquisition. Nous avons rapatrié dans les locaux, dans les services de la CTM, la charge de verser régulièrement cette prime, parce que nous avions externalisé auprès d'une agence de l'État qui faisait pas bien le boulot. Je vais pas donner son nom. Je qualifie déjà la manière dont il y a le service. Et actuellement, nous avons mis en place le nouveau dispositif avec un logiciel participatif qui est renseigné évidemment par le CFA, par la direction du travail qui contrôle les contrats d'apprentissage, par les chambres de consulaires qui gèrent, par l'entreprise qui a le contrat. Et quand nous avons toutes les informations, nous versons aux entrepreneurs qui sont maîtres d'apprentissage une prime pour les inciter à recruter des apprentis. Mais il faut ouvrir, si vous voulez que retenir des jeunes en Martinique, quand vous avez un recrutement à faire et vous voulez quelqu'un qui soit bien formé suivant votre entreprise, recrutez-le dès qu'il a moins de 26 ans. Et actuellement, sur notre territoire, on forme non seulement au CAP, mais également au bac pro, au bac général, mais également en licence et également en master pour l'apprentissage. Parce que ce n'est pas simplement des CAP. Donc, la voie de l'apprentissage est une voie royale parce que le jeune est dans l'entreprise, il se forme à l'entreprise, et je pense, en tout cas, j'encourage les entreprises à le faire. Et puis enfin, nous aidons, par la formation professionnelle, les entreprises à former leur propre personnel. Soit ceux qui sont déjà là, ce sont des salariés. Alors le seul point sur lequel je veux insister, c'est que nous cofinançons. Il faut un financement de l'employeur ou de l'OPCA auquel il adhère. OPCA, je rappelle, c'est l'organisme paritaire collecteur agréé. Si l'OPCA ne prend pas tout, la CTM met un financement, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Et puis également, ça peut être des recrutements faits dans le secteur privé ou public sous forme de contrat de professionnalisation. Donc c'est une formation d'alternance, quel que soit l'âge d'ailleurs de la personne qui était recrutée. Nous aidons sur la partie pédagogique.
D'accord. Très bien, Daniel Marissette. Là, nous avons mis, disons, la nappe. On a vu le contexte économique, le besoin et tout ça. Alors, vous avez au total combien d'argent pour pouvoir réaliser tout ce programme dont dont vous nous avez parlé pour une année, et ça représente environ combien de personnes à peu près?
Bien, alors, on n'a pas assez d'argent. On n'a jamais assez d'argent parce qu'on veut faire beaucoup de choses. Mais dans le budget 2017, je ne sais pas combien j'aurai en 2018, mais en 2017, j'avais 53 millions que nous avons ventilés entre l'apprentissage, les formations collectives des chômeurs et les formations individuelles.
Vous pouvez nous donner quelques chiffres? Il me semble que
Pour l'apprentissage, mon chiffre rond, c'était une dizaine de millions, répartis sur les quatre centres d'apprentis en fonction des effectifs, puisque c'est un coût par apprenti, multiplié par l'effectif. Pour l'IMFPA, qui est le centre que nous faisons en direct, c'est 8,5 millions que nous donnons pour l'année 2017. Je prends 8,7. Et puis pour tout le programme de formation, ça fait 38,5 millions de mémoire. Voilà l'ordre de grandeur, la répartition. Et puis, nous avons décidé, de manière tout à fait volontariste, parce que nous pensons qu'ils font du bon travail, d'augmenter la dotation du SMA. Normalement, le SMA reçoit son financement du ministère des Outre-mer. Bon, dans les contacts que nous avons eus par le passé avec les officiers commandants...
Ils sont considérés comme quoi ? C'est presque comme un CFA ou pas ?
C'est un centre de formation. Moi, simplement, les encadrants sont des militaires. Ils ne dépendent pas du ministère de la Défense, ils dépendent du ministère de l'Outre-mer. Bon, c'était une création du général de Gaulle après les événements de décembre 59. Et c'était pour voir former les jeunes. Au début, il les faisait changer de pays. Bon, on prenait les Martiniques, on les envoyait en Guyane, et vice-versa. Et donc, on avait créé le RSMA, le régime du service militaire adapté. Et puis, finalement, ça s'est un peu calmé, ça s'est figé. Ils recrutent des jeunes en grande difficulté, forés de loyer de l'emploi, qui passent des contrats, et ils les forment. Mais, selon nous, l'État ne donnait pas assez de moyens. Alors, c'est vrai qu'ils sont éligibles au Fonds social européen, mais il faut savoir gérer ses fonds, il faut faire les remontées. Bon, j'espère que
c'est de l'ingénierie,
ça va. Mais également, la CTM a décidé, en 2017, nous avons voté une somme de 1 million pour augmenter le nombre de jeunes qu'ils accueillent. Également, par le passé, le président Marie-Jean, en tant que président de région, avant 2010, avait eu l'occasion même de les aider en termes d'investissement pour qu'ils augmentent leur parc d'engins ou le matériel pédagogique type informatique ou bien équipement de cuisine. Et donc, là aussi, de manière tout à fait volontariste, nous participons au programme de formation professionnelle qui se fait dans le SMA.
Oui, une question de Candide. La formation supérieure, elle rentre à quel niveau ? Elle n'est pas dans votre service ? Comment ça se passe ?
Bien, il y a deux formations supérieures. Formation supérieure initiale, c'est à l'université, les étudiants, oui. C'est la CTM aide. Passe des contrats avec l'université.
Mais ça rentre dans votre service formation ou pas ?
C'est le service éducation supérieure, et c'est ma collègue Aurélie Nella qui suit les relations avec les universités, l'Université des Antilles ici, mais également nous avons des conventions avec les écoles d'ingénieurs, les écoles supérieures, les instituts politiques, etc., dans les grandes écoles. Donc nous finançons les étudiants. Et puis il y a les formations continues supérieures. Alors, soit à l'université, qui est un service de formation continue, soit le CNAM, par exemple, ou bien la Chambre de commerce qui font des formations post-bac. Je vous ai parlé de master, c'est une formation supérieure. Donc, quand la formation supérieure rentre dans le domaine de la formation tout au long de la vie, et que le public qui y accède, ce sont des publics demandeurs d'emploi, inscrits à Pôle emploi depuis au moins 6 mois, et qui reprennent une formation, qu'elle soit supérieure ou pas, mais là, ça rentre dans le domaine dont je m'occupe. C'est de la formation professionnelle. Donc, nous occupons tous les niveaux.
Alors, Daniel Marie-Saint, tout ce petit monde, comment on arrive à... Parce que dans ce que vous nous dites, il y a énormément de partenaires.
Absolument.
Alors, comment vous arrivez à gérer à la fois les OPCA, les associations, le privé, les appels d'offres Il faut une plateforme, là, je suppose.
Absolument. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Nous ne pouvons pas faire seuls. Nous avons besoin d'un partenariat. Donc, nous avons à la fois créé de toutes pièces une association que j'appelle une plateforme partenariale, où on se rencontre. Cette association, c'est l'AGEFMA. C'est son acronyme, son nom, ça veut dire Association de gestion de l'environnement de la formation en Martinique. Et on trouve au sein de cette association, tous les partenaires qui interviennent dans le champ de l'emploi et de la formation.
D'accord.
Évidemment, aux côtés de la CTM, on trouve l'État et tous les services extérieurs de l'État qui interviennent sur le champ de l'emploi et de la formation professionnelle. On trouve les chambres consulaires, on trouve les partenaires sociaux, dont toutes les organisations patronales et toutes les organisations syndicales de salariés y sont. Et on trouve également, à côté des chambres consulaires, on trouve les OPCA. Organismes paritaires, collecteurs agréés. Donc ce sont tous ceux-là qui participent. Et ensemble, nous échangeons les informations, nous bâtissons les programmes, les contrats de programme pour des périodes longues. Nous, la GEFMA fait les études. Ensuite, la GEFMA gère un observatoire, le REF, l'Observatoire régional de l'emploi et de la formation, qui fait des statistiques, qui font d'ailleurs remonter les statistiques au niveau de l'État pour que nous évaluions. Donc le REF évalue notre propre politique, mais aussi celle de l'État en termes d'emploi. Et donc ça c'est donc un premier partenariat, c'est un instrument d'ailleurs, il est dit dans les statuts de la GEFMA que c'est le président du conseil exécutif ou son représentant qui préside. Donc le président Marie-Jeanne a bien voulu me désigner pour présider la GEFMA, aux côtés des partenaires que j'ai cités. Mais en plus nous avons d'autres partenaires. Convention avec Pôle emploi. Pôle emploi est pour nous un prescripteur. Ils vont adresser les chômeurs dans les différentes formations que nous faisons. Nous avons un partenariat avec le centre pénitentiaire. Nous mettons des formations à sa disposition et pour qu'ils puissent, que les personnes qui sont sous main de justice, soit qui sont sous contrôle judiciaire ou qui sont en prison, puissent avoir une formation. C'est nous qui finançons. Nous avons un partenariat avec les missions locales. Les missions locales accueillent et orientent, conseillent les jeunes de moins de 26 ans et qui ne sont pas au travail. Donc, il y a trois missions locales en Martinique, la Milsen pour la territoire de la CACEM, la mission locale d'Espace Sud et la mission locale du Nord. Donc, partenariat avec eux. Nous avons également un autre partenaire pour la formation en mobilité vers l'extérieur, c'est l'ADOM. Donc, ce partenariat avec toutes ces structures nous permet de mettre en place notre politique.
D'accord. Alors, parlez-nous justement de cette formation mobilité, même si, puisque ça fait déjà presque 30 minutes que nous avons commencé notre entretien, même si il serait temps qu'on commence un peu à parler de manière concrète des différentes personnes, c'est-à-dire, moi aujourd'hui, j'imagine, je sors de l'école à 16 ans, où est-ce que je peux aller? J'ai 26 ans, j'ai plus de 26 ans, j'ai 30 ans, je sors du travail, tout ça. C'est-à-dire que là, allons essayer de manière très concrète de faire un peu quelque chose à la carte, quoi. C'est-à-dire comment le Martiniquais peut se retrouver dans cette organisation, parce qu'on voit que c'est très complexe, qu'il y a toute une architecture que vous nous avez expliqué de comprendre, mais au bout d'un moment, il y a un consommateur, quoi. C'est celui qui se fait former. Alors, est-ce qu'on peut...
Très bien, je vous remercie pour cette question. Et d'abord, on prend le cas le plus concret. Vous avez terminé votre école. Vous estimez, bon, on n'a plus votre place à l'école. Soit vous êtes sorti avec des diplômes. Et vous cherchez un boulot. Bon. Mais vous vous heurtez, vous voyez que vous êtes inscrit à Pôle emploi. D'ailleurs, la première chose à faire, je dis à un jeune, dès qu'il sort de l'école, il faut aller s'inscrire à Pôle emploi. Si vous voulez un jour avoir de l'aide publique, il faut être inscrit à Pôle emploi. C'est la première chose à faire. Et Pôle emploi va vous aider à trouver du boulot. Maintenant, une structure a été créée pour les jeunes. En plus d'être inscrit à Pôle emploi, il a moins de 26 ans, il faut aller s'inscrire à la mission locale. Vous allez trouver là des personnes qui vont vous accompagner pour rechercher un boulot. Parce que c'est,
alors, on reprend, moins de 26 ans.
Moins de 26 ans, ils vont à la mission locale. Mais ils vont également à Pôle emploi.
D'accord. Ils s'inscrivent d'abord à Pôle emploi. Voilà. Ensuite, ils vont dans les différentes...
Suivant là où ils habitent, dans leur commune, chaque mission locale a une antenne dans une commune qui est membre du comité d'agglomération. D'accord ? Donc, ils se renseignent. Il peut aller sur Internet pour chercher l'adresse. Il s'inscrit. Et puis, il discute avec son conseiller. S'il a plus de 26 ans, il va s'inscrire directement à Pôle emploi, il ne va pas à la mission locale. Mais il y aura aussi un conseiller qui va l'aider dans ses démarches.
Conseiller Pôle emploi, là.
Conseiller Pôle emploi, pour les plus de 26 ans, et conseiller la mission locale pour les moins de 26 ans. Et puis, dans ses démarches, les aides qu'on lui donne, qu'on lui propose, il y a toutes sortes d'aides, hein, mais on n'est pas là pour parler de toutes les aides aujourd'hui, il y aura peut-être la formation.
Oui, alors... Concernant les différentes aides, il faut préciser, d'après ce que nous avons vu dans la préparation de cette émission, Daniel Marissel, que les personnes qui sont intéressées peuvent se rendre à une adresse très précise. Vous pouvez nous donner les informations.
Volontiers, puisque nous avons créé sur le site de la collectivité. Je rappelle l'adresse du site de la collectivité, c'est www.collectivitedemartinique.mq. Et lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, vous cherchez la rubrique « Aide ». Et quand vous cliquez sur « Aide », il y a toute une page qui se développe et vous allez voir tout le dispositif d'aide que nous avons, toutes les aides de la CTM, et y compris les aides à la formation. Et là, vous pourrez avoir tous les renseignements suivant votre situation. Donc, www.collectivitédemartinique.mq.
D'accord. Alors, on a vu pour ceux qui avaient moins de 26 ans. Voilà. Maintenant, ceux qui ont plus de 26 ans et qui travaillent, qui veulent se former ou bien qui ne travaillent pas, ça a des noms aussi.
Oui, alors, s'ils ne travaillent pas pour l'emploi validé, parce que si la formation est nécessaire, on va l'orienter soit dans le nouveau programme ou bien il peut avoir de l'aide individuelle. Ils verront sur le site comment faire les formalités, mais il faut passer par Pôle emploi. Maintenant, s'ils travaillent et puis qu'il faut une formation pour les faire progresser, normalement, ce n'est pas la CTM qui doit aller, ils doivent aller d'abord dans voir avec leur employeur pour avoir un congé formation et aller à l'OPCA où cotise l'employeur. L'organisme paritaire collecteur agréé où cotise l'employeur. Ils se renseignent. Maintenant, si l'OPCA ne prend pas en charge financièrement tout, nous pouvons donner une aide, que la personne soit le secteur public, le secteur privé.
On peut aider jusqu'à combien à peu près, Daniel Marissette? Les montants en moyenne, c'est
alors,
quoi?
Alors, lorsque la personne est chômeur, c'est 3 000 euros par an si la formation est faite à Martinique. Lorsque la personne est salariée, ça peut aller à 2 000 euros, mais en cofinancement avec l'employeur ou l'OPCA. Maintenant, le chômeur qui ne trouve pas à se former à Martinique et qui envisage de partir en France, il cherche une formation, il en trouve. Là, il ira à la DOM. La DOM lui montrera un dossier, et le dossier nous sera transmis, et c'est la CTM qui prend la décision. Et cette personne sera prise en charge, billet aller-retour, plus prise en charge le coût de sa formation, et même une rémunération lui est servie dans une limite totale de 10 000 euros par an et par personne.
Et ça fait presque... Alors, sur les 10 000 euros par an, ça veut dire quoi? Mensuellement ou bien c'est une enveloppe globale annuelle? C'est-à-dire que si, non, par exemple, j'ai une formation qui dure 6 mois, est-ce que j'ai toujours ces 10 000 euros?
Non, c'est le plafond qu'on peut donner sur une année. Ça inclut les coûts pédagogiques, plus une rémunération que nous donnons. Alors, c'est la DOM qui va le verser pour le compte de la CTM, parce que nous avons une convention avec la DOM. D'accord? Ça, c'est la rémunération plus le coût pédagogique pour les personnes qui sont en France, qui partent d'ici et qui vont en France. Pour ceux qui restent à faire la formation ici, 3 000 euros pour le coût pédagogique, plus une rémunération pendant tout le temps où dure la formation. En général, la rémunération doit faire à peu près 5 000 euros maximum. Au-delà, bon. OK? Maintenant, troisième cas, la personne n'a pas trouvé de formation en Martinique, n'a pas trouvé de formation en France, mais il va ailleurs dans le monde. Là, c'est la CTM qui gère directement avec un plafond de 15 000 euros.
D'accord. Alors, Daniel Marissette, on a donc vu, selon l'âge, selon le contexte, ce qu'on peut avoir. Est-ce que c'est tout ce dispositif qu'on appelle les AIF?
Oui. Alors, il y a les AIF, aide individuelle à la formation, c'est quand la personne fait sa démarche pour son propre compte et demande directement de l'aide, en passant par les structures avec lesquelles nous avons des conventions, nous sommes des partenaires. Mais à côté de l'AIF, il y a les actions collectives de formation. L'action collective, c'est des formations que nous avons mises en place après avoir fait un contrat de marché avec un centre de formation. Et là, c'est le centre de formation lui-même qui recrute. En général, nos formations, c'est entre 12 et 15 personnes que l'on forme en même temps. Nous avons un contrat avec le centre de formation. Le centre de formation est chargé du recrutement. Et nous payons directement le centre de formation. Et nous servons une rémunération aux stagiaires par le biais de Pôle emploi qui le liquide pour nous, qui verse pour nous. Et puis, nous lui mettons des sommes à disposition, évidemment. Et puis, ça c'est de la formation collective. Donc, je distingue, donc formation collective, en groupe, de l'aide individuelle où la personne, à ce moment, fait une demande individuelle. Mais je peux ajouter qu'à côté de l'aide individuelle à la formation, nous donnons une aide également pour permettre à ceux que ça intéresse et qui remplissent les conditions de valider leur acquis de l'expérience, ce qu'on appelle la VAE, c'est-à-dire essayer de convertir la connaissance acquise par l'expérience professionnelle ou associative en un vrai diplôme, un vrai CAP, un vrai bac pro, un vrai BTS, qui est l'équivalent des bacs au CAP ou BTS passés dans l'éducation nationale, parce que c'est toujours l'académie qui va valider, ou le ministère de l'Agriculture si c'est un diplôme agricole, ou le ministère des Affaires sociales si c'est dans ce domaine-là, mais ce n'est pas une formation que l'on va suivre, mais on va faire valider. Alors il y a actuellement des des structures qui accompagnent les personnes dans les VAE, mais qui se font, qui demandent une rémunération, eh bien, nous, la CTM peut les aider, ça peut aller jusqu'à 850 euros.
D'accord, très bien. Donc, ce sont des... Alors, généralement aussi, lorsqu'on est dans des... au chômage, lorsqu'on veut changer de direction, il y a ce qui s'appelle aussi les bilans de compétences, qui sont assez importants, qui constituent presque un point de départ pour l'ensemble de ces... Est-ce que ça rentre dans ce cadre-là également?
Absolument. Et je trouve d'ailleurs que c'est un dispositif de moins en moins utilisé par les Martiniquais. Vous faites bien d'en parler, parce que ça a dépanné pas mal de Martiniquais. Vous avez des Martiniquais, bon, par exemple, quelqu'un est victime d'un licenciement économique. Bon, et avait déjà acquis une grande ancienneté. Malheureusement, son entreprise est obligée de fermer. Et il cherche une nouvelle orientation. Donc il faut, ce qu'on lui conseille d'abord, de faire un bilan de compétences pour connaître ses points forts, ses points faibles, ses acquis. Il y a donc des centres actuellement de bilan. Et quand ils ont fait le bilan, on lui remet son bilan après, et il va regarder comment il peut repartir.
Et vous financez ça? Vous financez oui. Jusqu'à combien à peu près?
Je n'ai pas le chiffre en tête.
D'accord. Vous m'excusez, enfin, vous, d'accord.
Mais je vais... Ce que je peux conseiller, puisque pour être pratique, la personne se rapproche de l'AGFMA. Ils peuvent aller aussi sur le site de l'AGFMA, agfma.org, ou bien se déplacer pour aller à l'AGFMA, pour avoir des renseignements précis sur les lieux où on peut faire ces bilans, parce que l'AGFMA est chargé de contrôler la démarche pour voir si c'est fait dans les normes déontologiques, hein, puisque nous avons donc un centre CRIS, qui est un centre d'information et de ressources sur les bilans de compétences qui examine ces questions-là. Et les centres de bilan, évidemment, demandent une rémunération. Et là aussi, au même titre que l'aide individuelle à la formation, nous finançons les bilans de compétences.
D'accord. Voilà. Alors, Daniel-Marie Sainte, nous arrivons presque à la fin de notre entretien, même si je note que nous n'avons pas dit la moitié sur la question de la formation, parce que c'est vrai que s'il faut rentrer dans le détail, il faut presque une émission par jour sur la question, alors que on peut se retrouver avec un besoin de formation à n'importe quel moment, et ça nécessite presque qu'il y ait une répétition permanente. Ce qu'il faut, je crois, c'est comprendre bien le principe. On s'inscrit d'abord à la NPE, ensuite en fonction de... À Pôle emploi. Ensuite, en fonction de son âge, on se dirige soit vers les instances de proximité, Milsen et compagnie, ou si on a plus de 26 ans, on rentre dans le circuit. Alors, ce que je voulais par contre savoir, c'est combien de temps ça prend, parce que il se répète très souvent que j'ai déposé un dossier, mais le dossier, je ne comprends pas, on me l'a envoyé. Pour instruire une affaire comme celle-là, vous avez imaginé un timing de quoi à peu près? Parce que bon, je suppose que vous avez entendu comme moi-même des gens dire j'ai déposé et puis...
Écoutez, comme je suis le principal responsable de la formation professionnelle, je suis le premier pour qui on vient se plaindre. Ou bien tel ou tel élu qui a rencontré tel ou tel citoyen me font remonter des plaintes. Donc c'est pourquoi j'essaie de motiver au maximum mes collaborateurs là-dessus pour qu'on ne perde pas de temps. D'abord, je veux dire, puisqu'on va conclure, je rappelle à ceux qui nous font l'amitié de nous écouter que nous avons créé sur Internet un lieu où toutes les informations sont à leur disposition. Sur le site de la collectivité, collectivitedemartinique.mq, rubrique aide. Ça, c'est la première chose, vous allez trouver tous les renseignements. Alors évidemment, pour ceux qui n'ont pas Internet, ils peuvent aller dans une cyberbase. Pour ceux qui vont à Pôle emploi, les agents de Pôle emploi connaissent bien ce site, donc vous pouvez leur montrer, etc. Ou ceux qui ont des smartphones et puis qui ont une connexion Internet, ils peuvent l'avoir directement sur leur smartphone. Maintenant, il faut suivre bien la procédure. C'est pas la peine d'aller déposer le dossier à CTM parce que nous sommes obligés ensuite de les retourner vers Pôle emploi. Il faut les déposer à Pôle emploi. Vous êtes demandeur d'emploi, déposez-le à Pôle emploi. Votre conseiller Pôle emploi va vous demander toutes les pièces. Et quand le dossier est complet, ils vont nous le transmettre par le net, c'est-à-dire par Internet. J'ai poussé le vice jusqu'à leur demander de me mettre en copie. Donc les services reçoivent, mais moi aussi je les reçois, et j'archive toutes les demandes sur mon ordinateur. Donc je sais quel jour c'est arrivé. Ensuite, derrière, Il faut mobiliser les équipes pour qu'elles fassent l'instruction. Une fois qu'ils ont fait l'instruction, ils me préparent un rapport de présentation au conseil exécutif. Je les présente au conseil exécutif. Le conseil exécutif se réunit tous les jeudis. Et tous les jeudis, j'ai un petit paquet. Je présente. Ensuite, derrière, il faut le notifier à Pôle emploi pour que Pôle emploi sache quelles sont les décisions qui ont été prises, parce qu'il y a des décisions positives, parfois il y a des décisions négatives. Parce que j'ai oublié de dire que toutes ces aides-là se font sous critères de ressources. Si les revenus fiscaux de la famille permettent que cette famille prenne en compte le jeune, nous avons mis un plafond de ressources, que nous voulons réserver l'aide pour ceux qui en ont le plus besoin. Hein, on fait déjà un petit peu un petit système socialiste. Hein, l'aide à ceux qui en ont besoin, et ceux qui peuvent se débrouiller tout seuls, bon, les parents aident. Ils prennent en charge leur enfant. Donc c'est pourquoi il faut quand même une décision politique.
Et dans le cas des adultes, des plus de 26 ans?
Oui, là, ils sont tous rattachés à un foyer fiscal. C'est on regarde les revenus du foyer fiscal où la personne est retenue. En général, ce sont des chômeurs de plus de 6 mois d'inscription à Pôle emploi que nous étudions. On peut faire une dérogation si, dans son projet, il y a un projet professionnel qui montre la formation. On n'a pas encore 6 mois d'inscription à Pôle emploi, mais c'est nécessaire pour un projet professionnel. Ou bien une promesse d'emploi. Donc, les élus ont le privilège, au conseil exécutif, de donner des dérogations. Une fois la décision prise, il faut que les services notifient. Il faut un arrêté délibéré signé par le président. Bon, comme j'ai une délégation, je suis autorisé parfois à signer des arrêtés. Et il faut écrire au centre de formation pour les rassurer. Alors, donc j'essaie de faire en sorte que ça aille le plus vite possible. Le délai, à peu près, c'est 3 mois. Entre le moment où la demande est déposée à Pôle emploi et le moment où nous donnons la réponse. Entre-temps, nous avons pris la décision. Je sais de forcer, de raccourcir les délais, mais c'est beaucoup de travail.
Donc ça veut dire que ça fait déjà quand même un an que la personne est au chômage, hein, puisque 6 mois d'inscription,
Exactement. Exactement. Mais alors j'utilise à fond la dématérialisation, la circulation de papier, etc., de paraffeurs à transporter, etc. Nous essayons d'utiliser au maximum Internet. Donc les dossiers nous sont transmis par mail, je communique avec les services par mail, et ensuite, si les personnes ont des mails, la réponse, on reçoit par mail aussi. Ou bien on envoie au centre de formation par mail, on envoie la... Donc j'essaie d'utiliser Internet, le numérique, pour raccourcir les délais. Mais évidemment, il y a le temps de la démocratie, puisqu'il faut qu'on soit sûr qu'on analyse que l'aide va à ceux qui le méritent, et puis ensuite que la formation soit sérieuse, que les gens ne veulent pas partir en France pour faire pom-pom, mais alors que la formation peut se faire ici. Donc il y a une série de contrôles que nous sommes obligés de faire, parce que c'est des fonds publics que nous gérons, donc il faut le temps de l'instruction, le temps...
Des fonds au pillage.
Voilà. Oui, je vais vous expliquer ça.
Oui. Daniel Marie Saint, on va terminer notre entretien, si vous êtes d'accord. Dernière question, vous savez que sur la question de la formation, il y a aussi un enjeu qui est un enjeu politique. Le président Macron, notamment, envisage de faire toute une révolution à ce niveau, avec la suppression des OPCA, notamment, avec tout un tas de bouleversements. Comment vous, en tant que région, vous appréhendez toute cette période, d'autant qu'il me semble que la ministre du Travail sera bientôt à la Martinique, me semble-t-il.
Oui, c'est ce que nous avons appris par un mail reçu à la préfecture. Il semblerait qu'autour de la mi-décembre, d'abord le ministre de l'Outre-mer viendra et ensuite il sera accompagné, après 3 jours de visite, par la ministre, Mme Péricot, je crois, qui est du Travail, moi. Nous allons voir, entendre ce qu'ils disent. Mais en tout cas, la formation professionnelle des demandeurs d'emploi a été transférée aux régions depuis 1983. Quand le président Macron a commencé à parler de ça, j'ai vu que l'ensemble des présidents de régions se sont levés, puisqu'ils se réunissent dans une association qui s'appelle l'ARF, l'Association des régions de France. La région Martinique y est adhérente, le président Marie-Jeanne est un des vice-présidents représentant l'outre-mer. D'après le compte-rendu que nous a fait, que les présidents de région sont prêts à défendre leurs compétences, les compétences qui leur sont déjà données. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que le gouvernement découvre cette question de la formation professionnelle, mais il vise plutôt la partie gérée par les socioprofessionnels. Puisque vous savez que pour la formation continue des salariés, c'est géré par les partenaires sociaux. J'ai lu des rapports de la Cour des comptes ou d'autres organismes auditeurs qui dénoncent quelques dérives. Mais Je n'ai pas entendu de dérive dénoncée chez les régions. Les régions, globalement, utilisent les dotations qu'elles ont pour la formation professionnelle pour former des ressortissants de leur région. Donc nous formons ici, nous les Martiniquais, pour qu'ils deviennent des acteurs de leur développement. Mais nous allons nous battre hein, pour garder nos prérogatives, puisque nous voulons des compétences, nous voulons plus. J'ai bien vu, je vais être un petit peu incisif là, j'ai bien vu que le nouveau préfet qui est arrivé, qui fait beaucoup de médiatisation, il parle de la formation, il va visiter des centres de formation, et dans sa communication, il oublie de dire que c'est la CTM qui finance. Jusqu'à y compris la formation pour les personnes qui sont incarcérées à Ducos. C'est la CTM qui finance. Et l'illettrisme, la CTM finance. La formation dans le numérique, c'est la CTM qui finance. Parfois avec les OBCA, lorsque ce sont des personnes qui sont en situation de salarié. Bon, ce n'est pas l'État qui finance la formation professionnelle. Nous le faisons. Je ne crois pas que les gens ont à se plaindre de la formation. Maintenant, moi, je trouve que l'apprentissage, on peut mieux faire. C'est pourquoi je lance un appel aux entreprises pour qu'ils se saisissent de l'opportunité de recruter des jeunes pour l'apprentissage et ils auront la CTM à leur côté.
Oui, mais vous savez, M. Marie Saint-Ain, pour avoir été moi-même employeur, le jour qu'on va payer les chefs d'entreprise, qu'on va les payer, comme on paye les formateurs en mathématiques ou en sciences pour former des gens dans ces secteurs-là, vous verrez qu'il y aura plus de formateurs. Parce que imaginez bien que si, ne serait-ce que si on faisait des groupes de 3 ou 4 personnes à former par entreprise, ça pourrait parfois faire le salaire du chef d'entreprise.
Alors, je ne partage pas cette analyse.
Mais...
Attendez, je ne partage pas cette analyse parce qu'ils ont choisi d'être employeurs, ils n'ont pas choisi d'être formateurs. Maintenant, s'ils veulent être formateurs, ils ouvrent un centre de formation et ils seront payés, rémunérés. Par contre, puisque j'ai beaucoup discuté ça avec les employeurs, ils me disent le jeune au début, il n'est pas rentable. Ce qu'il me donne en contrepartie ne vaut pas le salaire que je lui donne. C'est pour cela. Alors que rien ne nous oblige à le faire, nous avons institué une prime à l'effort d'apprentissage pour compenser un peu ces premiers mois où le jeune ne rapporte pas encore son entreprise. Mais je vous garantis qu'au bout de 6 mois, le salaire donné à l'apprenti est un salaire gagné. Si son employeur sait organiser son travail, l'apprenti lui rend déjà des services. Et donc, la rémunération, la plus-value apportée par l'entreprise, c'est le travail de ce jeune salarié, parce que l'apprenti est un salarié. Simplement, il est un certain nombre de semaines par mois dans l'entreprise, et puis une semaine par mois au CFA. Et puis, on lui donne un salaire qui est nettement inférieur au SMIC. Donc, à chaque employeur de choisir son apprenti pour qu'on soit un type sérieux, qui arrive à l'heure, et qui fait le travail qu'on lui donne à faire. Parce que l'apprenti doit travailler dans l'entreprise, et c'est comme ça que le chef d'entreprise est rémunéré, c'est par le travail de son apprenti.
Daniel Marie Sainte, merci. On se retrouve le mois prochain. Je vais vous proposer qu'on parle un peu, qu'on fasse la prochaine émission, elle sera plus politique, elle sera moins technique. Hein, puisqu'on sera à la rentrée à partir du mois de janvier et ça fera 2 ans que vous êtes à la CTM. On va essayer d'en savoir un peu plus et vous aurez vous-même déjà des éléments de bilan.
C'est volontiers, mais à ce moment-là, je parlerai avec ma casquette de porte-parole du conseil exécutif.
Absolument. Merci. Au revoir, Daniel Marissin.
Au revoir.